Vous écoutez
RMC.
RMC.
On n'était pas bon avec le ballon, puis on n'était pas bon sans ballon. Ça fait un peu beaucoup pour moi.
En Ligue des Champions, on sait que c'est des matchs coupe-gorge, voilà, où il n'y a pas le temps de réfléchir, il faut être performant à l'instant T.
Je veux pas dire qu'il nous manque la réussite. Il nous manque la réussite, mais il nous manque pas que la réussite.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'after est là en direct jusqu'à minuit comme tous les soirs. L'after, première radio de France avec vous tous, bien sûr, qui nous écoutez sur RMC et sur la chaîne YouTube de l'after, after tiré foot. Ils sont là, Daniel Riolo, bonsoir.
Bonsoir les amis.
Et Stéphane Guy, bonsoir.
Citoyens, bonsoir.
L'événement ce soir dans l'after, les gars, c'est la journée de Ligue 1 du week-end et la course aux places européennes. On va en parler longuement ce soir, le fameux podium des 4, théorisé par Luis Fernandez bien avant que la France ait 4 places en Ligue des Champions.
Il avait anticipé.
Il avait... Quel talent.
Ah, on pas fait, Luis. Pourquoi on n'appelle pas de temps en temps l'after?
Il m'a appelé ce matin.
Oui, il ne m'appelle pas.
Il t'appelle pas?
Non.
Parce qu'en général, il m'appelle Evie. Tu diras à ton ami Daniel.
Ah, en fait, il t'appelle pour faire passer les messages. Mais tu me les fais pas passer, les messages.
Je dis, bah, appelle Daniel. Mais non.
Ah, si, après, il sait que ça va durer longtemps.
Après, on parle de foot.
Bah, il a parlé de quoi ce matin? C'est quoi son sujet du week-end?
Bah, Paris, Kylian Mbappé.
Ah, c'est ça, il
la gestion. Parler de
ça. Ah, ouais, d'accord.
Toujours plus ou moins PSG avec Louis, ça.
Ouais, c'est vrai. Ah.
Il aime bien Mbappé ou pas, Louis?
Oui.
Oui,
bien sûr, il adore.
Mais il
aime pas, enfin, faut vraiment être.
Il aime bien Luis Enrique aussi.
Pas aimer le. Pas aimer Mbappé, c'est pas aimer le foot.
Oui, on est d'accord. Bon, donc, on va débattre de ces places européennes, ce qui nous permettra de parler d'un peu tout le monde. Hein. De Lille, de Rennes, on n'a pas eu le temps de le faire hier soir. De Lens, de Brest, de Nice. Et de l'OM à nouveau, qui revient fort. Mais avant ce débat, Daniel veut nous dire pourquoi le printemps de la Ligue 1 a démarré. Ce sera dans quelques secondes. Et puis après 23h, Stéphane, lui, veut donner ses conseils directs à Luis Enrique pour bien gérer Kylian Mbappé d'ici, oui, d'ici à la fin de la saison.
Des idées.
Des idées, du management. Très bien.
On peut aller beaucoup plus loin.
On peut aller plus loin. Et puis à 23h40, l'actu du jour, notamment actu liée au supporterisme. Le Sénat a débattu de supporterisme aujourd'hui. Un colloque organisé au Sénat avec tous les acteurs, ministère des Sports, direction de lutte contre le hooliganisme, avec donc des idées, des propositions. C'est toujours intéressant de suivre ça, surtout que beaucoup de supporters qui font des déplacements écoutent l'after. Donc on vous dira tout d'ici minuit. Le 32-16 pour tous ces sujets est ouvert. Vous appelez Max au standard, il vous attend. Et puis Direct Studio, notre messagerie privative, mais qui est disponible pour tout le monde sur les applis RMC et RMC Sport. Et là, n'hésitez pas à nous écrire. Et nous avons également un direct Ligue 2 ce soir avec Edouard G qui est à Grenoble, au Stadio delle Alpi, pour Grenoble-Laval. Salut Edouard.
Salut Gilbert, salut Stéphane, salut
Doudou.
Daniel. Stadio delle Alpi, et pour l'instant, c'est pas but à Laval, mais c'est but pour Laval. Un but qui fait la différence à la 62e minute, ce but de Pablo Pagis, le fils de Michael Pagis.
Il ressemble furieusement à son père.
Est-ce qu'il a la classe de son père?
Ouais, je pense un peu. En tout cas, il a marqué un joli but. Il était un petit peu abandonné.
Son père, extrêmement sous-coté. C'était un très beau joueur de football.
En tout cas, là, il a fait un joli geste technique sur un centre en retrait. Il était tout seul dans la surface, petite surface de réparation, pour dribbler et troubler Brice Maubleu en première période. Des Grenoblois qui n'y arrivent pas. Alors certes, ils ont eu leur premier tir de cette partie. C'était à la 56e. Mais pour l'instant, ils ne mettent absolument pas en danger des Lavallois qui se baladent. Alors pas au tableau d'affichage, il n'y a qu'un 1-0. Mais dans le jeu, c'est évident. Et pour l'instant, messieurs, eh bien Grenoble s'en va vers une 5e défaite consécutive.
Le fils Pagis, le seul intérêt de ce match, c'est le nom du gardien de Grenoble. C'est tout.
Maubleu.
Eh oui.
Ça dépend.
Qui ne s'appelle pas, qui n'a pas comme prénom, donc, Stéphane?
Christophe.
Oui.
Évidemment.
Ça aurait été magnifique.
Je vous laisse.
À tout à l'heure.
Magnifique que monsieur et madame Maubleu appellent leur fils Christophe. Ça aurait été super.
Ouais. Ouais. Il y a des matchs également européens. Chelsea, Newcastle, c'est la mi-temps à partout. Séville est menée à Almeria 1-0. Et puis, l'Udinese mène 2-1 à la Lazio. Vous connaissez l'histoire de la rumeur du loto avec Michael Pagis? Vous ne la connaissez pas, cette histoire?
Ah, non.
Alors, en fait, Pagis, une fois sa carrière terminée, était resté dans le coin à Rennes. Et il y avait eu un gros lot du loto qui avait été gagné à Rennes. Et en fait, il y avait une rumeur comme quoi c'était Michael Pagis qui avait gagné le jackpot, quoi. Messieurs dames.
Messieurs dames.
et puis tout le monde, c'était acté pour tout le monde, en fait, c'était lui. Et puis un jour, il a dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je joue pas au loto. Donc, c'est totalement faux. C'est la rumeur publique qui s'était propagée comme ça.
Il n'y a rien d'autre dans l'histoire.
Non, c'était juste.
C'était juste ça, d'accord.
Non, mais la rumeur était devenue une information quasiment. Tu vois, c'était genre pour tout le monde.
C'est pour ça qu'on était allé chez lui pour chercher le coffre, tu vois, des trucs comme
ça. Non, rien.
Moi, tout de suite, tu vois, j'imagine des choses un peu plus spectaculaires.
Non, bon, là, c'était pas très spectaculaire. Jingle Daniel Riolo, s'il vous plaît, c'est parti.
Au revoir Galtier, prends la doudoune et barre-toi. Il la kiffe, cette doudoune. Donnez-lui la doudoune, faites-le partir. Tu donneras à la famille, allez, rentre.
Le pauvre, il gagne pas un match au Qatar.
C'est ah bon? C'est vrai?
Oui, c'est dur. Apparemment, il. Ah.
Parce que toi, tu suis la carrière de Galtier au Qatar.
Bah, des fois comme ça, je regarde.
Est-ce que Verratti est dans son effectif? Ou est-ce qu'il est dans une autre équipe?
Non, c'est pas le même club.
Ouais.
Je revérifie. Verratti
n'a pas de club. Son club, c'est le club de paddle du coin, là. Parce qu'en fait, toutes ses photos sur Insta, c'est soit il est au paddle, soit au resto. En fait, club de foot,
il continue de suivre Verratti. Lâche-le, Daniel.
Non, mais blague à part, tu sais que dans son contrat, il a
de jouer au paddle.
Il a dealé un certain nombre de jours où il doit être présent. Vous voyez ce que je veux dire?
Ah oui.
Donc, c'est-à-dire que le fait qu'il soit à Paris, par exemple, c'est pas incompatible. C'est-à-dire que son employeur est au courant. Et c'est transparent. Enfin
bon, il a arrêté le foot. Pour un génie de 31 ans, arrêter le foot, c'est toujours très étonnant.
Hier, j'ai eu un choc quand même en me rappelant qu'Eden Hazard avait 33 ans. Hein, c'est pas.
Eden Hazard a arrêté le foot aussi.
Ah ouais. Mais non,
il l'assume presque beaucoup plus. Autant, et je pense que pendant la, parce qu'on n'a jamais eu le temps de faire ça, mais il va y avoir une longue trêve quand tu seras au bout du monde.
Pendant 15 jours, à partir de la semaine prochaine.
Au Turkménistan ou en Laponie.
Où vas-tu, Gilbert, pendant la longue
trêve? Dis pas, c'est secret.
Pas le droit,
tu vois,
c'est secret.
Il faut pas casser la légende des destinations, on sait pas. Il faut surtout pas le savoir.
Je serai en vacances à la fin du mois.
Je n'ai pas de réservation de Marguerite au nom de Gilbert Bribois.
On peut utiliser un pseudo.
Il
sera toujours le bienvenu.
Est-ce que tu es. Alors, si tu as une réservation au nom de Dimitri Liénard, c'est possible que ce soit moi.
Et sache que même quand tu vas dans un pays que certains ont connu, il ira dans une région que personne ne connaît. C'est comme ça.
C'est ça le charme du voyage.
C'est la légende.
J'ai un petit bonbon spécial Gilbert pour tout à l'heure.
Très bien.
Pour tout à l'heure. Je tease.
Du coup.
Eden Hazard.
Oui, voilà. Pendant la trêve, il faudra qu'on parle justement de cette interview d'Eden Hazard dans France Foot, donnée il y a maintenant plus d'un mois, que j'avais trouvé à la fois très intéressante parce qu'il l'assumait et en même temps scandaleuse.
Oui, parce qu'en gros, il disait, moi, le foot, c'était juste faire des dribbles.
Le problème, c'est que c'est pas un joueur de tennis.
Pas le travail, quoi.
Le problème, c'est que c'est pas un joueur de tennis, c'est un joueur de foot. Et donc, j'expliquerai pourquoi j'avais trouvé que c'était à la fois fascinant et scandaleux.
Alors, hier soir, je reprenais le fameux message de notre ami Guzman, qui disait qu'à Lille, on a donné le nom de terrain d'entraînement à un mec qui n'aimait
pas s'entraîner.
Et alors, maintenant, aujourd'hui, j'ai appris autre chose, c'est que il était présent lors de l'inauguration de ce terrain, Hazard, et il a dit, écoutez, moi, je suis content qu'on donne mon nom à ce terrain d'entraînement. Par contre, faites-moi le plaisir, sur ce terrain d'entraînement, que les exercices avec ballon, zéro physique. Donc il assume jusqu'au bout.
Il assume le truc, mais en ça, c'est un mec marrant, c'est un mec. Mais bon.
Moi, je suis toujours très reconnaissant de ces joueurs qui nous ont donné beaucoup de plaisir et de bonheur. On a kiffé Eden Hazard. Enfin, moi, j'ai kiffé Eden Hazard. J'ai kiffé de le voir et de commenter les matchs d'Eden Hazard. Vraiment.
Je relance, s'il vous plaît, le jingle Daniel Riolo, puisque finalement, on a fait tout sauf l'avis de Daniel.
Au revoir Galtier, prends la doudoune et barre-toi. Il la kiffe cette doudoune, donnez-lui la doudoune, faites-le partir, tu donneras à la famille, allez rentre.
Voilà. Quand on a été plus critique avec d'autres entraîneurs du PSG.
Tu repars sur Galtier maintenant.
Non, mais il y en a qui me disent tu fais une fixette. Non, moi je décrypte sa communication. En plus, je ne parle pas spécifiquement. Et d'ailleurs, c'est parce qu'il déteste ça, parce qu'il estime qu'on n'a pas le droit d'en parler, parce qu'on n'est pas assez fort. Il ne veut pas qu'on parle de terrain. Donc il fait tout pour déplacer sur la politique, la communication, ce genre de choses-là. C'est calculé, c'est un type qui est extrêmement intelligent. Il fait tout pour qu'on ne parle pas du jeu, qui est d'une grande pauvreté depuis des semaines, alors qu'il avait dit que ce serait mieux en février, mieux l'année prochaine. Enfin bref, qu'il fait cette tambouille de communication pour nous endormir.
Là, les gens vont confondre. Évidemment que tu ne parles plus de Galtier.
Non,
là.
Et qui reste sur trois matchs.
C'est pas son avis. Daniel ne fait pas un avis sur Luis Enrique.
Une seule équipe est à 2 points de moyenne dans notre championnat. Une seule, c'est rare, ça n'existe pas dans les autres grands championnats. C'est signe d'un championnat qui va pas fort. Le bilan est pas terrible. Il y a que le PSG qui a 25. Tu vois, je suis nul en maths, mais il y a eu 25 matchs.
Oui.
Il faudrait qu'il y ait des équipes à 50 points. Il n'y en a qu'une. Tu vois, j'ai réussi à faire ça quand même.
Bravo.
C'est costaud quand même. Hein. Nos locomotives, celles que j'appelle locomotives et qui doivent tirer notre Ligue 1 vers le haut, ne sont toujours pas sur le podium, Marseille et Lyon. Voilà, je commence par des aspects négatifs de la Ligue 1. Et pourtant, comme disait Aznavour, j'ai envie d'aimer la Ligue 1. Parce que après un hiver terrible, vraiment, alors. Où ça a été très très dur, je trouve que on se dirige vers une fin de saison, parce qu'après tout, il faut toujours faire avec ce qu'on a. Et même s'il y a quelques défauts, je trouve que là, les matchs sont en train de redevenir intéressants, parce qu'ils l'ont été à un autre moment de la saison. Et qu'au final, tu te souviens quand on faisait notre fameux classement du kiff des supporters?
Oui.
Ben, je pense que il y a peut-être 2 mois, on avait plutôt des tripotés de supporters qui devaient faire la gueule. Là, je pense que les supporters de l'OM sont contents en ce moment.
En Brest, tout cas, sont très
en
contents.
En tout cas, plus heureux qu'ils ne l'étaient il y a quelques semaines. Idem pour les Lyonnais, pour les Rennais. Je pense que les Lillois...
Les Rennais, attention. Hein.
Ils sont quand même lancés dans une fin de saison où ils peuvent espérer quelque chose. Je veux dire, les matchs que font les Rennais depuis que Julien Stéphan est à la tête de l'équipe, il n'y a pas eu un match honteux, quoi. Mmh. Ils font que des bons matchs. Alors, ça va peut-être faire beaucoup d'équipes qui vont regretter les gros passages à vide. Les 3 que je viens de citer de clubs, là, oui, ils pourront peut-être nourrir des regrets à la fin. Mais je pense qu'ils sont lancés dans quelque chose qui est assez excitant pour les supporters. Donc, j'ai parlé de Marseille, j'ai parlé de Lyon, j'ai parlé de Rennes. Je pense que les supporters lillois doivent être assez fiers de leur équipe en ce moment. Et le match d'hier a dû les rendre également fiers. Ils font un gros match en Coupe d'Europe. Ils sont menés 2-0. Ils terminent 2-2. Je dis pas qu'ils pouvaient gagner le match, hein, mais bon, ils font un gros match. Ils reviennent, c'est bien. Je parle même pas de Brest qui, eux, sont à 100% dans la saison du kiff total. Et honnêtement, hein, le match qu'ils font à Lens, moi, franchement, alors c'est ça va être paradoxal de les féliciter et de dire à quel point j'ai été impressionné alors qu'ils ont perdu, mais à Bollaert, une deuxième mi-temps comme ça, où ils ont fait défendre les Lensois ont terminé limite le cul par terre dans leur surface, tellement Brest dominait, avait des occasions.
Il n'y avait pas une équipe qui a fait ça à Bollaert.
Franchement, c'est costaud, parce qu'en fait, Brest, peu importe l'équipe qu'ils ont en face, ils reproduisent la performance. Ils ont pas, tu vois, j'en sais rien, moi, tu prends une équipe comme Monaco, à un moment, ils jouaient les forts, ils jouaient bien, ils jouaient les faibles, ils disparaissaient, et ils étaient à un niveau trop irrégulier à chaque fois. Brest, c'est une sorte de valeur sûre de notre championnat.
4 mois d'invincibilité, hein. C'est pas rien, 4
c'est
mois
quand même, c'est hyper costaud le match qu'ils ont fait. Francaise avait raison d'être heureux à la fin, tu vois, de serrer le poing, de dire on a gagné un match de costaud. Donc j'ajoute,
il y a juste dans le kiff, il y a eu un moment que j'ai adoré dans ce match-là. J'adorais ce match-là, mais à la fin du match, aux interviews de Paga, je crois, il y avait donc un Lensois et un Brestois, et les deux, le Lensois puis le Brestois, ont félicité l'adversaire en disant on a joué ils auraient pu gagner. Ils auraient
oui, je vois ce que tu veux dire. Ça ressemblait à une sorte de match de boxe où à la fin les deux se respectent, ils se sont un peu mis sur la gueule et les deux se. Je suis d'accord.
C'était très réjouissant. C'était très réjouissant.
Donc attention, moment mot bleu.
Ah. La Maubleu va-t-il arrêter un pénalty?
Moment Maubleu, Edouard G, Grenoble.
S'il arrête le péno, je chante.
72e minute, vous l'avez compris. Pénalty pour Laval. Laval qui mène 1-0. Rémi Labo-Lascari face à donc Brice Christophe.
T'as vu sur le maillot le sponsor maillot arrière,
Julien? Jean Rousse, la plus grande station de France.
C'est ta station, c'est là où t'as grandi.
Allez, le pénalty, contre-pied parfait, ça fait donc 2-0 pour Laval.
Je ne lui dirai pas des mots bleus, alors je ne chanterai pas.
Exactement, et bien on va en rester là, et par contre, il y en a qui vont chanter.
Et vous
Je ne pense pas que ça va donner du baume au cœur et du bleu au cœur aux supporters grenoblois. Donc, leur équipe est menée 2-0, et on se dirige vers une 5e défaite consécutive pour les hommes de Vincent Ognon.
Bon. Gros coup pour Laval,
qui se relance.
Exactement, ouais. Laval qui se relance et qui va rester dans les 5. Grenoble qui était dans les 5, donc que ce soit direct pour la montée ou pour les barrages depuis le début de la saison, qui avait glissé à la 6e place après la 4e défaite à Bastia la semaine dernière, et bien là, qu'il voulait remonter, et bien ça ne sera pas pour ce soir parce qu'en 17 minutes, on ne voit pas comment ils peuvent remonter l'écart, donc désormais de 2 buts. 2-0 pour Laval.
Voilà. Est-ce que.
Jean Rousse, c'est une station qu'Edouard G adore.
Oui.
Exactement.
Est-ce que comment il s'appelle le buteur lavallois là, il vient de marquer à l'instant, Doudou?
Rémi Labo Lascari.
Tu vois, moi, si je suis entraîneur, alors je sais, c'est la mode actuelle, ça fait kiffer et tout, mais la façon dont il a tiré son péno, ça me, si je suis entraîneur, ça m'exaspère.
Oui, c'est-à-dire, en attendant la toute dernière seconde pour mettre une petite passe de l'intérieur du pied à l'opposé des gardiens.
Une star internationale comme faisait Neymar et tout, en plus il était quasiment 100% efficace. Je veux bien, quoi, mais là...
C'est encore plus fort que là, parce que là, il n'y a pas d'arrêt dans sa course. Il le fait...
Ouais, non, mais ouais.
C'est un peu hautain, ouais.
Je trouve que c'est un peu hautain, et... écoute.
Bon, en tout cas, ça fait 2-0 pour Grenoble. Il reste un gros quart d'heure à jouer. Donc,
Je reprends ma liste où finalement j'allais enchaîner avec Lens, qui également est en train de revenir en boulet de canon dans le haut du classement et n'ayant plus rien d'autre à jouer.
D'ailleurs, Lens,
il va falloir se méfier de cette équipe aussi.
Lens, Daniel, sur les 2 points par match. Si tu enlèves leur début de saison catastrophique, hein, ils étaient derniers au bout de 5 matchs.
Ils sont en train d'arriver à une grosse moyenne. Je vais terminer. Alors, c'est moins clinquant parce que comme on s'attend toujours à plus de la part de Monaco, effectivement, ça semble un petit peu moins brillant que les autres équipes que j'ai citées. Mais néanmoins, Monaco, depuis qu'on leur a beaucoup tapé dessus, pareil dans l'hiver, ils enchaînent les matchs. Là, ils sont allés gagner chez toi, Gilbert. Ils sont sur le podium. Leur objectif, c'est d'y être. Ils y sont. Et je termine avec le PSG. Je ne sais pas réellement comment les supporters du PSG sont en train de vivre cette saison. Le championnat, c'est toujours pareil. De toute façon, c'est la tristesse pour ce club. C'est que tu sais que tu le gagnes et que donc, au bout d'un moment, tu n'es plus que focalisé sur la Ligue des Champions. Et il se trouve que tu es qualifié en quart de finale et que c'est quand même une très bonne nouvelle. Donc, je pense qu'en très grande majorité, les supporters sont positifs. Je pense qu'ils ont raison de l'être. Il y a un quart de finale de Ligue des Champions à jouer. C'est pas le moment de faire la fine bouche. Nous, on peut peut-être s'arrêter à la com de Luis Enrique, trouver que ça joue pas bien, parce que c'est vrai que ça joue pas terrible. Néanmoins, le PSG va encore être champion et ce quart de finale de Ligue des Champions, il est là. En conclusion, il y a quand même beaucoup, je pense, non seulement d'équipes qui sont en train de retrouver un très bon niveau, de gens en France. D'ailleurs, les stades sont pleins. De gens en France qui sont en train de kiffer ce qu'ils voient. En train de vivre un bon moment. Et après tout, ce que j'entendais tout à l'heure, tu vois, par exemple, il y avait les drôles de dames, il y a Polo qui se plaignait un peu d'une de la Bundesliga, Fred Hermel qui en peut plus d'endosser le costume du je tape sur la Liga depuis que je vis plus en Espagne. Et en revanche, je sais plus ce que disaient réellement Johan et Julien à ce sujet-là. Mais tout le monde se lamente un petit peu. Après tout, si les gens sont heureux, et là, en l'occurrence, je pense qu'on a une grande majorité de supporters en France, qui en suivant leur club sont en train de kiffer, en train de se préparer une belle fin de saison. Bon, je me dis que c'est peut-être ça le plus important, quoi. Et puis la petite cerise sur le gâteau, on a 3 clubs en quart de finale. C'était pas arrivé depuis 2004, depuis l'année magique du Golden Left Foot, alias Jérôme Bretagne.
C'est vrai.
Voilà.
Il y en avait 4 à l'époque.
En 2004.
Ouais. Il y avait 4 clubs en quart de finale. Ouais.
Ouais. Il y avait Bordeaux, Lyon, Marseille,
Monaco.
Oui, pas 3, 4.
Exact. J'ai fait des petites recherches cet après-midi.
Ouais.
Elles sont peut-être pas. Et un ami m'envoie un message à l'instant qui contredit peut-être une de mes pistes. Oui, il y a eu la décennie 90. Je sais pas si nos jeunes auditeurs le savent peut-être pas, c'est parce que ça précède l'after, mais la décennie 90 est la grande décennie des clubs français en Coupe d'Europe, avec évidemment la victoire de l'OM, la victoire du Paris Saint-Germain.
T'as 2 victoires sont là. Hein.
Déjà.
Mais t'as des finales, surtout.
Et t'as en 90, sur la décennie, t'as 5 années. Ouais. Où t'as au moins 3 clubs français en quart de finale. 5 années. C'est arrivé 5 fois. Déjà, en 90.
T'as 5 demi et 2 finales pour le PSG. Ouais. T'as l'OM qui fait 2 finales.
Ouais, mais donc en 90, 95, 96, 97, 99, on avait 3 clubs français, au moins en quart de finale.
Monaco fait une finale, Bordeaux fait une finale, Auxerre fait une demi-finale.
Marseille.
Nantes fait une demi-finale.
Marseille fait une finale.
Paris, je le cite pas parce que c'était leurs grandes années. Mais outre ces deux-là,
Marseille refait une finale
à la toute fin de la décennie en 99.
Mais je tiens à ma question à Gilbert, alors le petit bonbon que je t'avais préparé, Gilbert. Quelle est la première année dans l'histoire des Coupes d'Europe où il y avait 3 clubs français en quart de finale de Coupe d'Europe? La première année où ça se passe.
Ah, c'est 79 ouais. Enfin, 80 plutôt.
79-80, quand Strasbourg va se faire éliminer par l'Ajax.
Quand ils se prennent
en quart de finale. Ils vont en quart de finale quand même.
Ouais. Et regarde pas les clubs que Strasbourg avait éliminés avant d'arriver en quart contre l'Ajax.
Le quart de finale de Ligue des Champions, c'est tout.
Non, voilà. Coupe des Champions.
Combien de clubs y sont allés?
Alors.
Excusez-moi, combien?
Alors, précisons quand même, justement à nos jeunes auditeurs, qu'à cette époque-là, la C1 n'avait pas exactement la même valeur, que peut-être la C3 était même souvent plus compliquée.
Oui, la C1, tu pouvais avoir au premier.
Si tu vas par là, la Coupe de Coupe ne valait que dalle.
C'est la même chose.
Premier tour, tu pouvais avoir
la même façon. Ça dépendait de qui tu jouais, en fait. Ça dépendait de qui.
De tout temps,
comment ça se passait. Mais la Coupe, la C3, par exemple, elle pouvait être très compliquée. Et la C1, tu faisais un premier tour en septembre en aller-retour, un deuxième à l'automne, et hop, t'étais qualifié pour les quarts immédiatement au printemps. C'est pour ça que l'expression tu passais l'hiver, elle vient de là.
On a eu aussi des déconvenues dans les 70 avec des clubs en bois battus.
Fais-toi raconter par Roland Courbis l'année où ils sont champions avec Monaco. Ouais. L'année d'après, ils font la C1, donc. Non, où ils perdent contre Malmö.
Qui a été en finale, quand même.
Justement.
Ouais.
Il joue Malmö, je crois, mis au deuxième tour. Ouais. Et le gars qui est censé observer les équipes va voir Malmö et revient et il dit, honnêtement, c'est des jambons, hein, c'est des pipes, il n'y a aucun problème. À l'époque, on pouvait dire ce genre de choses. Donc Roland nous dit, on nous a dit que c'est des pipes et des jambons. On y est allé un petit peu comme ça. Je crois, de mémoire, ça doit faire 0-0-1 partout. Donc il dit, non, on n'a pas compris. Ils jouaient une ligne haute, on était sans arrêt hors jeu, on s'est pas adapté à leur truc tactique. Il me dit, je pense qu'on a perdu contre une équipe qui, honnêtement, nous semblait à notre portée. C'est un peu l'histoire du football français. Et Malmö est allé en finale contre Nottingham Forest.
Avec Sven-Göran Eriksson, je crois, entraîneur.
Dans un instant, Erwan, je veux rebondir.
80, je termine, Gilbert.
Eriksson est à la tête.
Göteborg
quand il gagne le
Göteborg.
C'est Göteborg.
Non, donc il y avait eu donc Strasbourg, Nantes, demi-finale de Coupe des Coupes contre Valence, le fameux Valence de Kempes, et Saint-Etienne, quart de finale, l'année où ils battent Eindhoven en 8e, 6-0, et où ils se font écraser par Mönchengladbach en quart de finale. C'est la première année où on avait trois clubs en quart de finale.
Les clubs représentés étaient de qualité. Dans un instant, on continue le débat avec Stéphane, avec Erwan. Bougez pas, l'after revient tout de suite.